Petrella, la semaine prochaine, nous parlerons encore un peu de l'eau en évoquant une multinationale Vivendi qui s'est construite sur l'eau et puis nous aborderons également les questions du lobbying à l'échelon européen. En attendant, vous savez que vous pouvez nous téléphoner à partir de lundi au 01 56 40 36 72. Vous pouvez également nous écrire à Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris, CEDEX 16. Voilà, Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, documentation Laurence Chenepin, réalisation Olivier Bétard. Bonne semaine.
Merci Ruth Stegassi, France Culture, il est 8h et la matinée se poursuit avec tout de suite le Zohar et les grandes structures de la Kabbale. Nous rejoignons Michel Cazenave.
Symboles et religions, par Michel Cazenave.
Dans notre émission précédente, nous avons vu sur quel fond de la Kabbale était apparu le Zohar dans l'Espagne de la fin du XIIIe siècle, sous la plume de Moïse de León ou de l'école qui entourait Moïse de León. Aujourd'hui, dans cette approche que nous voulons faire ainsi de ce livre si mystérieux, nous allons beaucoup plus essayer de comprendre quelles sont les grandes structures de la Kabbale que précisément nous allons retrouver dans le Zohar lui-même. Mais avant d'aborder ces grandes structures en compagnie de Charles Mopsik, qui est directeur d'études au CNRS et qui depuis une vingtaine d'années s'est attaché à traduire l'ensemble des livres du Zohar parus aux éditions Verdier, il y a évidemment une première question qu'il faut se poser, c'est en quoi consiste ce mouvement kabbalistique, ou plus exactement cette nouvelle réflexion kabbalistique qui est celle de Moïse et Léon, comment d'une certaine manière est-ce que l'on peut arriver à tenir ensemble le fait qu'il y ait une nouveauté que l'on introduit dans la méditation, dans le commentaire sur les textes sacrés, en même temps que l'on se réclame des doctrines établies, et des doctrines établies depuis le plus lointain de l'humanité, puisque la Bible, on le sait, commence avec la Genèse. Et c'est donc cet étonnement que l'on peut ressentir, comment à la fois peut-on être totalement nouveau et totalement traditionnel.
Le Zohar emploie parfois le terme assez paradoxal de Milin, Chadetin, Yeshinin, Atikin, pardon, de choses anciennes, nouvelles. Il met ensemble ces deux adjectifs comme s'il n'en faisait qu'un, pour dire que les secrets qu'il révèle, ou les enseignements, les commentaires qu'il donne, sont tout à fait nouveaux, c'est des choses qui n'avaient jamais été dites ni écrites auparavant, et pourtant ce sont des choses extrêmement anciennes qui remontent à l'origine des temps. Tenir le bout de la chaîne, c'est difficile, mais c'est le pari socialement réussi du Zohar, puisque il a imposé à la fois une espèce de nouvelle version du Midrash ou du Talmud, puisque le Zohar se présente comme le Midrash classique, le Midrash rabbinique, avec des maîtres, dont Rabbi Shimon ben Yochai en particulier, mais d'autres aussi, qui discutent, qui entrent parfois en controverse les uns avec les autres, comme dans la littérature rabbinique ancienne. Et en plein XIIIe siècle, enfin, même vers la fin du XIIIe siècle, on a une sorte de ressuscitation de l'ambiance et du système de discussion que l'on trouvait à l'époque, à la fin de l'Antiquité. Donc, c'est une forme classique que le Zohar d'emblée épouse, et d'autre part, quelque chose de tout à fait nouveau, puisque on ne voit jamais dans les discussions du Talmud entre Rabbi Shimon ben Yochai et ses disciples, on ne voit jamais des enfants, des aubergistes, des paysans. C'est une forme de nouveau Talmud ou de nouveau Midrash qui est inventé par le Zohar, et en même temps, bien entendu, le contenu n'est pas celui qu'on trouve dans le Talmud, bien que le Zohar cite très souvent les textes du Talmud et du Midrash. Il le reprend et il en propose toujours une signification nouvelle. D'ailleurs, c'est la façon dont il procède. Il dit, ce verset-là a été déjà enseigné, il a été commenté, sous-entendu, par les anciens, par les maîtres de la tradition rabbinique ancienne, mais nous allons à nouveau le revoir, et voici son secret. Il se réfère donc à l'ancien, mais il ajoute sa propre version des choses qu'il présente comme étant la plus profonde. Pas que l'école du Zohar, il y a aussi l'école d'Abraham Amoulafia, qui est une forme de Kabbale beaucoup plus pratique, beaucoup moins théologique ou théosophique que la Kabbale du Zohar, qui axe son intérêt sur l'étude et les moyens concrets, techniques pour parvenir à l'extase. Et chez un kabbaliste comme Isaac Dacre, ce n'est pas le seul. Ces enseignements, du Zohar ou de l'école du Zohar et l'enseignement d'Abou Lafia vont se trouver réunis. Et par la suite, cette réunion d'écoles différentes va encore se retrouver jusqu'à sa fête et même après, même dans le chassidisme moderne, chassidisme du Baal Shem Tov et de ses disciples. On retrouve à la fois des éléments de la Kabbale théosophique, empruntés surtout à Moïse Cordovero, et des éléments de la Kabbale d'Abraham Amoulafia, avec l'accent mis sur l'expérience et les techniques pour parvenir à l'extase.
Il est l'unique, le saint, s'exauçant au-dessus de toutes les formes. Parmi elles, aucune ne lui ressemble, car il s'exauce au-dessus d'elles, selon une élévation absolue, telle que la bouche ne peut dire, et telle que l'oreille ne peut entendre. Toutes désirent l'atteindre, et devant son trône, elles se prosternent. Avant que montât en la pensée la décision de créer le monde, lui était seul, béni soit-il, unique et simple, sans second, connu de personne. Lorsque monta en la pensée la décision de créer le monde, il émit un premier jet, et ce jet était absolue simplicité, sans nulle composition, subtile, plus que subtile, et inséparé de lui. Au sein de ce jet étaient les séphirotes, les anges, les âmes, les corps célestes, la terre et tous ses engendrements, en puissance et non en acte. Et quand il voulut, béni soit-il, exposer et manifester sa vérité et créer le monde, il fit émaner de ce jet une sainte procession suprême, ni séparée ni distincte de lui, mais elle resta attachée à lui, et ce fut la couronne d'en haut. Quand l'influx de son souffle et de sa bonté descendit sur la couronne, sans doute aucun, cet influx déferla en elle, et la couronne fut enceinte de ce flux surabondant, et elle enfanta la sagesse, qui est la deuxième séphira. Celle-là est la fille de la cause des causes et de la couronne, car la couronne était une réalité intermédiaire. Ce n'est pas elle, pourtant, qui est appelée fille, car la sagesse est appelée père, et le discernement mère. Mais j'ai dit qu'elle est fille parce que de là-bas elle procède. La sagesse advient à partir du néant. À Lévi ben Eliezer, la transmission de la sagesse.
Le Zohar lui-même, Shalom Opsik, a apparemment une structure qui lui est tout à fait particulière, puisqu'à trois exceptions près, dont nous avons parlé, le livre de Ruth, les Lamentations, le Cantique des Cantiques, le Zohar ne s'intéresse que au Pentateuque, et a quand même, je dirais, un accent tout à fait particulier qui est mis sur le livre de la Genèse. Comme si déjà celle-là donnait des indications sur l'orientation même du Zohar.
Oui, certainement, le livre de la Genèse est une préoccupation constante pour l'auteur du Zohar et pour les kabbalistes, puisque on peut retrouver un très grand nombre de commentaires sur le Maaseh Bereshit, le récit de la création. Récit de la création considéré déjà dans une Mishnah, sur un texte tanaïtique du 1er siècle, comme un des deux grands types d'enseignement réservé, enseignement qui ne peut être divulgué au public. Cet intérêt pour le récit de la création vient de cette idée que, en cherchant ce qui s'est passé au début, comment les choses, comment le monde, comment les choses du cosmos se sont mises en place, eh bien, cela va nous aider à comprendre qui est celui qui a mis en place ces choses, qui est le créateur. En fait, quand on s'interroge sur la création, on s'interroge toujours sur le créateur. Et je ne sais pas si c'est la création en elle-même, le monde tel qu'il est visible en lui-même, qui était le centre d'intérêt des kabbalistes, certainement pas. C'était surtout le créateur et le mode de les modalités de la création qui ont intéressé les kabbalistes. Puisque pour eux, chaque jour, c'est vrai dans le Zohar en particulier, chaque jour de la semaine, de la première semaine, la semaine de la création, qui a vu apparaître le ciel et la terre, la lumière, les ténèbres, et puis les plantes, les animaux, enfin l'homme, chaque jour de la création est identifié à une séphira particulière, c'est-à-dire à une des émanations divines. Autrement dit, la création devient le corps du créateur, puisque les séphirotes sont identifiés au corps, non pas corps au sens simplement d'organisme charnel, mais corps au sens d'organisation, de structure, comprenant des entités variées, souvent d'ailleurs énoncées en termes de couleur, de lumière, de telle ou telle catégorie. Et cette création n'est que la réflexion, le reflet de l'être du créateur lui-même. La façon pour le créateur de se donner existence à lui-même, de sortir de lui-même et de rencontrer et d'aller à la rencontre d'un autre monde qui va être le monde matériel, le monde d'ici-bas. Et entre le monde d'en haut, le monde du créateur et le monde d'ici-bas, il y a le monde des séphirotes qui assure une intermédiation entre ces deux univers.
Comment donna-t-il existence et créa-t-il son monde ? Comme un homme qui retient son souffle et contracte sa respiration, se contractant en sorte que ce qui est petit puisse contenir ce qui est grand. Ainsi, il contracta sa lumière à la mesure de son empan, et le monde demeura dans l'obscurité. C'est dans cette obscurité qu'il découpa des rochers et tailla des pierres, afin d'en faire émerger les sentiers appelés « merveilles de sagesse ». Et c'est ce que dit un verset « L'insondable répand la lumière ». Texte anonyme cité par Shentov Ben Shentov, 15e siècle.
C'est un monde très structuré, avec une latéralisation, côté gauche, un côté droit, un centre, et puis entre les séphirotes, des relations particulières qui unissent les séphirotes entre elles, des relations qui vont souvent d'ailleurs dans les deux sens, de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite, de droite à gauche, tout cela lié, combiné, finalement pour arriver à une espèce de grammaire assez complexe, où le passage d'une séphira à l'autre modifie la façon dont l'être divin influe sur le monde, et ce qui se passe ici-bas est déterminé par les échanges et les interactions entre les séphirotes. Mais À l'inverse, ce qui se passe ici-bas est aussi la cause de la façon dont ces interactions vont avoir lieu, puisque l'homme n'est pas seulement la dernière création de Dieu, qui est apparu le sixième jour, mais il est aussi le centre, au sens de point névralgique, de nœud, de neurones, si l'on peut dire, où tous les canaux qui président à la création, qui conspirent pour créer le monde, vont se connecter. Il est le nœud de la création. Et à ce titre, ces actes resserrent les liens ou dénouent les liens entre tous les éléments de la création. Et donc, influent et réactivent ou inactivent le dynamisme du système des séphirotes. On est donc ici dans une pensée qui tourne totalement le dos à la croyance ou à la supposition d'un abîme entre ou d'une césure ontologique, d'une rupture ontologique entre, disons, Dieu et le monde, entre le divin et l'humain. Et bien au contraire, c'est les échelons qui permettent le passage de l'un à l'autre, qui sont l'objet essentiellement des commentaires et de l'intérêt des kabbalistes. Et ainsi, le kabbaliste devient, on pourrait presque dire, l'archi-magicien, le superintendant de tout le monde. D'ailleurs, c'est une fonction que le Zohar attribue aux justes. Le Talmud avait déjà dit que les justes, s'ils voulaient, pourraient ressusciter les morts. Les kabbalistes prennent cette formule et d'autres semblables très au sérieux, et ils essayent de trouver le chemin qui mène à la réalisation concrète de cette activité. Ressusciter les morts ou restaurer les failles dans le monde divin et entre le monde divin et le monde humain.
Que le Zohar, je dirais, s'appuie sur deux genres de considération, deux types de recherche. La première, la Bible commence par le fameux mot Bereshit au commencement, etc. Comme si l'Aleph n'était pas là, et on a l'impression finalement que le Zohar est sans arrêt à la quête de cet Aleph ou de la manière dont on peut le concevoir, tout au moins dans un certain type de manifestation. Et c'est là où on trouverait le second point, c'est que vous nous avez dit vous-même que le monde des séphirot, ce fameux arbre dont on parle toujours, est de l'ordre de la manifestation, si je me rappelle bien même, vous avez dit de l'émanation. Cette émanation qui est avant le Beit, en quelque sorte, c'est-à-dire qui est de l'ordre de l'intemporel. Ce n'est pas inscrit dans notre temps à nous, même si c'est en communication avec notre temps. Et derrière la dernière des séphiras, on sait que c'est notre monde qui va venir. Mais est-ce que ce faisant, le Zohar n'est pas en train de chercher de percer un secret? Et je dirais, tout en cherchant à percer ce secret, est-ce qu'il n'est pas en train de résoudre peut-être une question extraordinairement difficile, c'est-à-dire comment au Seigneur laisser son altérité radicale, faire qu'il reste tout le temps de l'inconnu et de l'inconnaissable, et que pourtant, bien qu'il soit inconnu et inconnaissable, on puisse en connaître quelque chose.
D'abord, je voudrais reprendre une chose que vous avez dite et qui ne me semble pas correspondre exactement à la pensée des kabbalistes. Car en fait, pour eux, le système des séphirot, les émanations, ne sont pas exactement de l'ordre de l'intemporel. Puisqu'ils considèrent que l'émanation, depuis la première et jusqu'à la malchut, la dernière, donc qui est en contact avec le monde d'ici-bas, la royauté divine, l'émanation commence à un certain moment dans le temps.
Oui, ce que je voulais dire, peut-être, je me suis mal exprimé, peut-être, mais là aussi il y a peut-être une distinction, c'est qu'il me semble, tout au moins en lisant les textes, que effectivement c'est de l'intemporel par rapport à notre temps profane, en quelque sorte, mais que c'est ce que j'appellerais plutôt un temps saint ou un temps sacré.
Oui, d'accord, tout à fait d'accord, de l'intemporel par rapport à notre temps profane, mais du point de vue du temps, les kabbalistes considèrent que le temps est apparu avec la première ou la deuxième séphira. C'est une chose importante parce que c'est là où il se distingue des néoplatoniciens. Alors, qu'il ne s'agisse pas de notre temps à nous, d'ailleurs d'autres kabbalistes ont développé des conceptions relatives au temps cyclique, au cycle ou au grand cycle d'âge cosmique de 7000, 50000 ans et plus encore. Mais il y a quand même, de toute manière, qu'il s'agisse de cycles courts ou de cycles très très longs, un rapport avec le temps et la temporalité. En acceptant la confrontation avec le temps comme dimension à prendre en compte dans la métaphysique, les kabbalistes ont permis que finalement le monde d'ici-bas, avec son temps, puisse au moins à certains moments de son évolution être relié, rattaché avec le temps des séphirotes, dans la mesure où, si on prenons par exemple l'histoire sainte, avec les personnages comme Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et les autres. Ces personnages, pour les kabbalistes, sont à la fois des personnages temporels, réels, au sens qui ont vécu ici-bas, avec des problèmes d'hommes, en chair et en os, et en même temps, alors c'est là où la difficulté se situe jusque dans les mots, ils incarnent les séphirotes, ou certaines séphiras, comme par exemple Abraham, la séphira Chesed, la séphira de la grâce, Isaac, la séphira Gevora, la séphira de la rigueur, Jacob, la séphira Tiferet, la séphira de la beauté. Et s'agit-il, en fait, j'ai employé le mot incarne, mais s'agit-il d'incarnation? La difficulté, c'est de nommer, c'est-à-dire de concevoir la façon dont ces personnages bibliques, et par conséquent tous les autres hommes après eux, et l'histoire humaine, l'aventure humaine en général, comment ces personnages bibliques manifestent ou véhiculent ou sont les vecteurs de ces émanations. Alors, une image qui est reprise par les kabbalistes, et dans le Zohar en particulier, mais qui remonte déjà au Midrash, c'est de dire que, à propos des patriarches, Ahavot hen a Merkava. La Merkava, non, Merkava qui désigne le char divin, celui qui a vu Ézéchiel, la partie la plus élevée du monde divin, ce sont les patriarches. Ils seraient donc l'attelage, les porteurs des émanations. Mais porteurs dans quel sens? C'est que dans leur vie concrète, ils ont manifesté des attitudes, des comportements, des qualités si parfaites qu'on peut très légitimement dire qu'ils étaient ces séphirotes, que rien ne les distinguait de par leur comportement avec la modalité d'être de ces séphirotes particulières, chacun pour une séphira distincte. Autrement dit, qu'il y a pas seulement un rapport de réceptivité, les patriarches ou d'autres hommes après eux vont être comme les sanctuaires où l'être divin va se reposer, mais plus encore, ils sont les acteurs du monde divin. Et c'est cela que les justes, les patriarches en particulier, les autres justes, après eux, vont être capables de réaliser. Intégrer, insérer dans le temps humain ce temps divin qui est un temps parfait. Pas seulement les actions ou les modalités d'action du divin, de la transcendance divine, mais ce sont également, je dirais, et comme dirait les kabbalistes aussi, les organes de ses sens, ce à travers quoi il ressent ce qui se passe à l'extérieur de lui. C'est à travers les séphirotes que, effectivement, les kabbalistes ont tenté de résoudre le problème métaphysique numéro un des religions révélées, qui est celui d'une la nécessité d'expliquer à la fois l'altérité de Dieu, son mystère, comment peut-il se tenir à l'écart et très très haut dans l'infini, et en même temps avoir affaire avec l'histoire des hommes. Le monde des séphirotes est à la fois un monde humain, dans le sens où il a la forme humaine, et en même temps il est l'image de Dieu, puisque c'est à partir des séphirotes que Dieu a créé le monde et a créé l'homme. Finalement, on peut dire que les séphirotes sont l'image supérieure, autrement dit, quelle est la forme, que les séphirotes sont la forme divine. Il appelle aussi parfois la chaîne de la ressemblance, parce que c'est un système où il y a des relations entre un échelon et un autre, un système hiérarchisé, organisé, et en même temps une capacité à travers les séphirotes de se reconnaître. L'homme peut se reconnaître dans les séphirotes alors qu'il ne peut pas se reconnaître dans la transcendance pure. Et Dieu lui-même, la transcendance pure, peut se reconnaître dans les séphirotes alors qu'il a du mal à se reconnaître dans l'homme, si limité et si faillible. C'est une espèce de lieu d'interconnexion, d'intersection entre deux univers qui chacun garde ses propriétés, un lieu de partage entre le divin et l'humain.
Dans son intermédiaire de Séphirot, dans la mesure même où il manifeste Dieu d'une certaine façon, on a l'impression que tout s'exprime ou tout se donne comme couple de posés. Je veux dire, il y a le haut, il y a le bas, vous l'avez rappelé vous-même, il y a le haut, il y a le bas, il y a la droite, il y a la gauche. Et alors particulièrement, il y a quelque chose qui évidemment est très très frappant par rapport à l'image que nous avons d'habitude de la religion judaïque, c'est qu'il y a, je dirais, le masculin et le féminin. Et avec ce grand thème de la Shekhinah, etc. C'est-à-dire finalement d'une figure féminine de Dieu.
Il n'est pas du tout évident que dans l'Antiquité, en tout cas, je dis l'Antiquité biblique, le féminin était exclu de la représentation du divin chez les Hébreux. Il y a un livre d'ailleurs assez devenu classique de Raphaël Pataille qui s'appelle, bon, en français on traduirait la déesse hébreu, qui tend à montrer le contraire, qu'il y avait d'ailleurs des sources effectivement retrouvées, en particulier à Éléphantine, montre que, à côté du dieu masculin, Yahou, il y avait une Anat Yahou, une figure féminine, une parèdre, qui était la compagne, attachée au dieu masculin. Évidemment, le problème se pose parce que on est ici dans un monothéisme qui se veut strict. Monothéisme, ça veut dire un seul dieu. Alors, s'il n'y a qu'un dieu, on est obligé de lui attribuer l'un ou l'autre sexe. À la limite, il est neutre, mais l'hébreu est une langue qui ne comporte pas de neutre, contrairement à d'autres langues. Et donc, pour le désigner, pour le représenter, eh ben, on utilise soit le masculin, soit le féminin. Le choix, si le choix il y a eu, c'est une façon de parler, c'est porté sur le masculin. Et effectivement, dans la plupart des textes bibliques, c'est en termes masculins que le Dieu d'Israël s'est décliné. En revanche, dans la littérature angélologique juive ancienne, la littérature des palais en particulier, on a déjà des anges, des archanges, qui sont explicitement décrits en termes féminins. Par exemple, l'archange du Shabbat, qui est une princesse, et dont la terminologie, les représentations, enfin, toutes sortes de qualificatifs très net, explicitement et très nettement féminins lui sont donnés. Les kabbalistes vont donner à ces premières attributions de figures féminines à des êtres du monde supérieur, en l'occurrence du monde angélique, où Shabbat, c'est aussi le cas de la Torah elle-même, qui est représentée sous des traits féminins. Et on dit que la Torah existait avant là dans le Midrash, avant la création du monde, et que Dieu jouait avec la Torah avant de créer le monde. Et il a créé le monde comme un jeu dans ses ébats avec la Torah. La Torah comme être féminin. Donc on a déjà l'idée, l'esquisse de l'idée d'un couple primordial. La Kabbale va donner à cela un développement particulier. Et en dehors de la première séphira, c'est-à-dire de la séphira Keter, la couronne, qui est aussi identifiée parfois au néant, à chaque séphira masculine va correspondre une séphira féminine, avec des relations de réception, d'émission, et parfois d'interversion, car les choses vont être souvent très très complexes. Mais et donc c'est là, bien sûr, un autre écart par rapport à la formule monothéiste classique. À tel point que certaines prières, telles que les kabbalistes vont les éditer ou les écrire, vont être adressées un dieu qui sera désigné par un toi, un tu, mais un tu qui se décline au féminin, en hébreu. En français, ça ne s'entend pas, mais en hébreu, c'est un mot féminin, un pronom personnel au féminin qui est utilisé. Et il y a bien sûr, plus que toute autre séphira, la séphira Malchut, la dernière, la royauté, qui est identifiée à la Shekhina, et qui, pour les kabbalistes, est une entité et l'entité féminine par excellence.
Chaque séphira possède un nom en propre. Les anges les invoquent grâce à lui. Mais toi, tu ne possèdes aucun nom propre, car tu remplis tous les noms et tu es leur plénitude. Lorsque tu les abandonnes, tous ces noms restent comme un corps sans âme. Tu es sage, nom d'une sagesse connue. Tu es intelligent, nom d'une intelligence connue. Tu n'as pas de lieu connu si ce n'est pour faire connaître ta force et ta puissance aux hommes, et pour leur montrer comment tu conduis le monde par le jugement et la miséricorde, qui sont justice et droit, en fonction des œuvres humaines. Tout cela afin de montrer comment le monde est dirigé, ce qui n'implique pas que tu possèdes une justice connue, qui est le jugement, ni un droit connu, qui est la miséricorde.
Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la Shekhina. Il faut d'abord rappeler, bien sûr, que la Shekhina est un terme qui désigne Dieu dans la littérature rabbinique, et pas une séphira en particulier. C'est simplement un autre nom du Dieu masculin. bien que ce mot soit un mot féminin, il n'a pas de caractère féminin particulier. Dans la vaste littérature rabbinique antérieure au Zohar, antérieure à la Kabbale. Et dans la Kabbale, la Shekhina est clairement, distinctement féminin, un être féminin. Alors, est-ce que cela n'a pas suscité la moindre opposition, n'a scandalisé personne? Il n'y a pas eu de maître, de représentant de la tradition rabbinique qui s'est élevé au Moyen-Âge, quand la Kabbale est apparue, contre cette projection d'un caractère féminin sur la Shekhina. La chose a semblé aller de soi, ce qui n'est plus le cas d'ailleurs aujourd'hui, puisque peut-être une régression par rapport au Moyen-Âge, il y a certains représentants ou porte-parole du judaïsme rabbinique qui ont considéré qu'il était déplacé et que c'était un détournement, une trahison de la littérature rabbinique authentique, classique, de donner à la Shekhina des traits féminins. Mais en tout cas, pour ce qui concerne l'époque formatrice de la Kabbale et du judaïsme médiéval, Dieu se dit aussi bien en termes masculins qu'en termes féminins. Et cela va prendre une dimension considérable, que ce soit dans le Zohar, que ce soit dans la Kabbale laurianique, l'univers tout entier va être sexualisé, au sens où il va être féminin ou masculin, ou d'ailleurs androgyne, parfois. La Shekhina, d'ailleurs, dans plusieurs textes kabbalistiques, elle est appelée androgyne, puisqu'elle a un caractère masculin par rapport aux hommes et féminin par rapport au reste des séphirotes. Il ne semble pas que cette sexualisation des entités divines ou angéliques par les kabbalistes corresponde à ce que certains ont appelé un pansexualisme. Ce n'était pas parce qu'ils étaient particulièrement obsédés par la sexualité ou l'identité sexuelle que les kabbalistes se sont servis de cette terminologie ou de ces représentations pour mettre en scène le monde auquel ils avaient accès et dont ils racontaient la cartographie à travers leurs écrits. Je crois que c'est simplement parce que l'expérience humaine, y compris au niveau corporel, au niveau intime, l'expérience quotidienne, est telle que la dimension masculine ou féminine est une catégorie omniprésente, que les kabbalistes ont utilisé cette catégorisation pour appréhender, pour décrire le monde divin. Il l'aurait, pour des gens qui pensent le corps divin à travers le corps humain, et réciproquement d'ailleurs, il aurait été absurde de ménager ou de faire l'impasse ou de censurer cette dimension, la dimension sexuelle de cette corporéité.
Oui.
Je voudrais cette semaine attirer l'attention sur la traduction par Bernard Potra de l'Évangile de Jean chez Rivage Poche, petite bibliothèque Payot. Pourquoi attirer l'attention sur cette traduction, si ce n'est que sous la plume de Bernard Potra, dont on sait par ailleurs qu'il est le grand spécialiste en France de la philosophie de Spinoza, nous redécouvrons tout à coup un évangile de Jean tout à fait différent de celui que nous croyons connaître. Bernard Potrat, en effet, et l'édition qu'il donne là, est une édition bilingue. Sur la page de gauche, nous avons le texte grec, sur la page de droite, le texte français. Bernard Potrat, donc, a essayé de traduire au plus près de la lettre même de l'évangile de Jean, en en faisant ressortir, du coup, et peut-être même sans le faire exprès, tout ce qu'il y a de proche d'un esprit gnostique chez Jean, c'est-à-dire d'une théologie de la lumière, d'une théologie de l'origine, d'une théologie, bien entendu, du coup, du rachat des âmes déchues qui sont les nôtres. Et d'une certaine façon, c'est une toute nouvelle lecture de l'évangile qui nous est ainsi donnée, parce que le texte nous est restitué dans son mouvement interne, en même temps que dans sa fraîcheur, et finalement, dans ce qu'il a de toujours neuf, même les siècles, et pour tout dire, deux millénaires, étant passés pratiquement depuis sa rédaction. Circulez tant que vous avez la lumière, de peur que la ténèbre ne vous saisisse. Qui circule dans la ténèbre ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, pour devenir fils de lumière. Dans un esprit à la fois proche de l'évangile de Jean, quoique radicalement différent, je voudrais signaler aussi l'ouvrage ou l'étude de Werner Beyerwalter, Platonisme et idéalisme, aux éditions Vrin. À travers cette étude, en effet, ce à quoi se livre Beyerwalter, c'est de nous montrer comme il y a toute une tradition qui est à la fois du côté de la mystique, puisqu'on sait que le néoplatonisme a été totalement mystique, et à la fois du côté de la rationalité la plus rigoureuse et la plus exigeante, et de faire ressortir en quoi des philosophes comme Plotin ou comme Proclus, de ceux qui ont illuminé, si l'on peut dire, l'Antiquité tardive, ont influencé toute une tradition que l'on va retrouver particulièrement dans la grande philosophie romantique allemande, celle de Hegel, celle de Schelling. Et c'est alors, peut-on dire, tout un fil secret de l'Occident que l'on suit ainsi et qui nous donne à même de comprendre l'évolution de notre culture et de notre rapport à ce qui est la méditation sur le principe premier. Car il en est ceci de l'un, de l'absolu comme tel, qu'il ne peut s'appuyer que d'un abîme béant, d'un néant de pensée, où s'absout l'absolu, qui permet dès lors à l'un de n'être pas une idole. Enfin, puisqu'on sait que tout un pan de la mystique arabe, particulièrement du côté des soufis, et plus spécifiquement encore du côté de la Grèce, a été très proche du platonisme, je voudrais signaler la nouvelle traduction qui vient d'être donnée aux éditions du Cherche Midi des Quatrains, ou des Robayat, comme l'on dit, de Omar Khayyam. Omar Khayyam, qui est ce grand mathématicien qui, au XIe siècle de notre ère, a refixé le calendrier musulman avec une précision astronomique qui n'avait pas été encore connue jusqu'ici, même dans le calendrier julien. Mais Omar Khayyam, par ailleurs, dont la réputation est d'être une sorte d'agnostique de celui qui enfreint les canons de la loi et qui va être repris ensuite, précisément, par les mystiques soufis qui vont essayer de montrer comment les transgressions de la loi, le fait d'aimer les femmes, le fait d'aimer le vin et d'en boire parfois jusqu'à plus soif, en réalité, à travers ce qu'on appelait l'école des reproches, par exemple, et la traduction de l'état mystique en lui-même, qui a précisément dépassé tous les commandements. Que subsistera-t-il de Khayyam? Le sais-tu? La vie n'est qu'une flamme, et le passant l'oublie. Que peut-il bien rester de ce bref incendie? Des cendres voleront. Un homme aura vécu.
Les livres aujourd'hui. L'Évangile de Jean de Bernard Potrat aux éditions Rivage Poche, Petite Bibliothèque Payot. Le platonisme et l'idéalisme de Beyerwalter aux éditions Vrin. Et les Quatrains d'Omar Khayyam aux éditions du Cherche Midi.
Tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon, si par hasard.